vous raconter l'histoire de la vérité, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un savant qui recherche la vérité, ou en tout cas qui cherche à savoir de quoi le réel est fait. On l'imagine en blouse blanche dans son laboratoire, mais le plus souvent, il est en chemise, pas nécessairement blanche, à son bureau, en caleçon même parfois, à faire des équations. Chacune de ces hypothèses est une question adressée au monde. Sur les feuilles amassées devant lui s'accumulent des paquets d'équations qui, bien souvent, ne donneront rien. Parfois, permettront de formuler une hypothèse nouvelle. Après, il faudra vérifier, faire des expériences, des tonnes d'expériences. Le succès d'une vérification expérimentale ne prouve pas que la théorie est vraie, écrit Einstein, mais l'échec d'une vérification expérimentale prouve que la théorie est fausse. C'est sa vie et elle lui plaît. Il a du mal à savoir ce qui est vrai, mais il sait souvent ce qui est faux. C'est comme ça qu'il avance d'erreur en erreur. Et quand parfois, sa vie de chercheur lui offre de rencontrer la vérité, c'est toujours par la grâce d'une erreur rectifiée. Vous connaissez le billard à trois bandes ? Certains coups ne sont possibles qu'en passant par les bandes. Eh bien, l'histoire de la science nous montre qu'on ne parvient à la vérité qu'en passant par l'erreur. La vérité, écrit Gaston Bachelard, n'est jamais qu'une erreur rectifiée. C'est étrange quand on y songe. Pourquoi la vérité se donnerait-elle jamais directement ? Pourquoi ne pourrions-nous pas en avoir une claire intuition ? Il sourit en écoutant la naïveté de notre question et en regardant devant lui ses paquets d'équations. C'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi les choses sont-elles si compliquées ? Peut-être sont-elles simples d'ailleurs, mais dans ce cas, pourquoi leur simplicité nous est-elle inaccessible ? Pourquoi les hommes ont-ils attendu des millénaires avant de trouver un tout petit nombre de lois de la nature ? La nuit est tombée maintenant, il sort dans son jardin et lève les yeux au ciel. Ce ciel est son objet d'étude depuis presque un demi-siècle, mais c'est toujours le même éblouissement, le même émerveillement. Ces étoiles, ces milliards de soleils, est-ce qu'il les voit comme nous les voyons ? Est-ce qu'il voit des équations au milieu des étoiles ? D'où vient son émerveillement ? De ce qu'il comprend ou de ce qui reste mystérieux ? Pour en parler ce matin, de science, d'émerveillement, de ce que la science peut nous dire du réel, j'ai la joie de recevoir Christophe Galfard, docteur en physique théorique, conférencier et écrivain, auteur notamment du best-seller « L'univers à portée de main » vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. Christophe Galfard, donc, qui ne porte pas de blouse blanche mais un simple et banal t-shirt gris-bleu et nous a rejoint sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter pour nous aider à réfléchir à cette belle question. De quel réel la science nous parle-t-elle ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Christophe Galfard.
Bonjour.
Vous l'avez pas mal pris ce que je dis sur votre t-shirt ?
Au contraire, c'était une très belle introduction, j'ai trouvé.
Alors, on va parler de trous noirs, on va parler du cosmos, on va parler de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, de la matière noire. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de vous et de votre parcours, que je vais retracer rapidement pour qu'on comprenne d'où vous venez au fond et comment vous êtes arrivé à cette vulgarisation. Il y a longtemps, vous étiez étudiant à l'école centrale, vous étiez très doué en mathématiques. J'ai vu quelque part dans un portrait de vous que vous étiez à l'âge de 19 ans, peut-être le meilleur en maths de toute l'Europe, enfin quelque chose comme ça. Et tellement que le
ça doit être un journal satirique.
Tellement que le directeur de l'école centrale vous a dit, écoute mon petit, tu vas t'ennuyer ici, peut-être tu pourrais aller voir, proposer ton travail de recherche à Stephen Hawking, ce que vous avez fait, et il vous a pris comme étudiant à Cambridge, vous êtes devenu son collaborateur, vous avez à ce moment-là été chercheur en physique théorique, notamment sur les trous noirs et l'origine de l'univers, mais, et c'est là où je voulais en venir, à un moment, vous avez quitté cette recherche dure pour faire, au fond, de la vulgarisation, des conférences à grand public, des spectacles, des événements, on va en parler, et puis des livres. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie, finalement, de passer de ce côté-là, de parler à tout le monde, finalement ?
Stephen Hawking, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des scientifiques les plus connus, en tout cas dans le monde anglo-saxon du XXe siècle, qui a révolutionné notre vision sur les trous noirs et qui a écrit un livre qui a été un best-seller absolu à plus de 20 millions d'exemplaires vendus, qui s'appelle Une brève histoire du temps. Voilà. Et donc, en gros, qui a ouvert une brèche. Un pont qui a construit un pont entre la physique théorique, ces chercheurs qui étaient censés être dans leur tour d'ivoire quelque part, et le grand public, grâce à
donc
ce livre.
Donc ça vous a donné envie au fond.
Alors ça m'avait donné envie petit, j'avais lu ce livre à je sais pas, je dois avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça, et quand j'ai été son étudiant, vers la fin de ma thèse, je me suis mis à écrire pour lui ses conférences grand public. Ouais. Et je me souviens d'une conférence en particulier où j'étais avec lui aux États-Unis, où on était dans un stade de 10-12 000 personnes, où des élèves, des étudiants, des jeunes, des vieux, de toute origine confondue, et faisaient la queue toute la nuit pour assister à cette conférence. Et Steven avait une particularité, c'est qu'il était très handicapé, et il ne pouvais parler qu'à travers un ordinateur et ça mettait du temps pour faire chaque phrase. Et vous faut imaginer un stade avec 10 000 personnes qui viennent écouter de la physique théorique, des gens qui n'ont pas forcément un background scientifique. Et dans ces minutes qui passaient entre chaque phrase, il y avait un silence absolu. 10 000 personnes, pas un bruit. J'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, la puissance de ce savoir, la puissance émotionnelle même de ce savoir, à quel point ça peut faire du bien, à quel point c'est important pour la société, était important. C'était important de continuer à transmettre ces choses-là qui... Le savoir scientifique fait partie de ces rares choses qui appartiennent à tout le monde. Il n'y a pas de copyright, ça n'appartient pas à une université, à je sais pas qui. Une fois que vous l'avez dans votre tête, c'est à vous.
Eh bien, cet émerveillement que vous avez eu, ce désir de transmettre, on le retrouve dans votre livre, L'univers à portée de main. Alors, j'avoue que j'ai adoré ce livre que j'ai lu il y a longtemps. Je me souviens, ça a été assez particulier dans ma vie parce que ça m'a pris quand même un ou deux mois en faisant presque que ça. J'ai adoré. Je le recommande à tout le monde. Donc, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès dans plein de pays. Et je voudrais poser une question très simple. Est-ce que depuis l'écriture de ce livre, quelque chose a changé sur ce qu'on a découvert de l'origine de l'univers ?
Alors, pas vraiment. pas vraiment encore. Mais vous disiez qu'on allait parler de trous noirs dans cette émission. Et alors, comment vous le dire rapidement ? Dans la façon dont on appréhende le monde aujourd'hui, on a deux grandes théories, si vous voulez, deux grands principes qui s'appliquent. Un qui s'applique à tout ce qui est gravité, très grand, plutôt des questions sur le cosmos en entier, et d'autres sur ce qui est plus petit, ce qui est à l'intérieur de nous, la matière, la lumière, etc., et qu'on appelle la physique quantique. Ces deux théories-là sont complètement séparées. Il y a le petit, il y a le grand. C'est très bien, elles marchent super bien. On n'a jamais eu de théorie qui marchait aussi bien que ces deux-là pour même découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que ces théories-là nous permettent de voir dans l'inconnu et d'aller vérifier ensuite que, effectivement, cette vision fonctionne. Alors, on pourrait se dire que c'est très bien, on a le très petit, on a le très grand, et que les deux sont séparés. On n'a pas forcément besoin de les réunir. Alors, pourquoi est-ce qu'on entend parfois des scientifiques dire on veut une théorie du tout, on veut une théorie qui réunit le petit et le grand?
Mais c'est d'ailleurs toute la construction de votre livre conduit à cette question, et je me souviens m'être dit mais oui, c'est vrai, moi j'ai envie de cette unité moi aussi.
Ben on aimerait bien. Pourquoi avoir deux plutôt que un? Pourquoi avoir quatre plutôt que un? Le un, on a l'impression qu'il y a quelque chose de naturel dans le fait d'avoir une équation,
et
une
puis,
théorie.
C'est quand même bizarre. S'il y a une approche du réel qui nous dit que le réel c'est ça, du point de vue de l'infiniment grand, et que c'est ça du point de vue de l'infiniment petit, je veux dire, si c'est le réel, on pourrait se dire que c'est la même chose.
Ben, ça l'est forcément, c'est deux parties différentes. Et la raison pour laquelle les scientifiques se disent qu'ils devraient être réunis, elles devraient être réunies, ces deux théories, c'est qu'il existe des endroits dans l'espace où elles le sont nécessairement.
Les trous noirs.
Les trous noirs, où vous avez quelque chose de très gros, comme une étoile gigantesque qui s'est contractée et qui est devenue minuscule, et le Big Bang, l'origine de notre univers, voilà, où toute notre réalité était dans un endroit tout petit. Après, le Big Bang, il n'y en a qu'un seul, c'est compliqué à étudier. Des trous noirs, il y en a plein. Du coup, c'est plus facile d'étudier les trous noirs pour revenir sur le Big Bang.
Est-ce que vous pouvez définir un trou noir ?
Alors, c'est l'inverse du vide. On a dans notre univers des endroits où il n'y a pas beaucoup d'énergie. Les trous noirs sont des endroits où il y a beaucoup trop d'énergie qui est concentrée dans un endroit minuscule. Et c'est par exemple, on sait que par exemple que des trous noirs peuvent naître lorsque des étoiles gigantesques explosent et contractent leur cœur. Ouais. Au moment de l'explosion, bam, le cœur est contracté. Et au bout d'un moment, il y a tellement d'énergie, tellement de gravitation, que la surface même du cœur s'effondre sur elle-même. C'est comme si vous marchiez là sur Terre et que le sol s'échappait sous vos pieds pour tomber. Où que vous soyez sur Terre, à l'infini quasiment, ou pas.
Mais alors du coup, est-ce que ces trous noirs, on les a découverts récemment, ou est-ce que finalement les Grecs anciens en avaient déjà eu l'intuition ?
Ah non, les Grecs anciens, non, ça faut pas exagérer. On a eu besoin... Mais vous parliez tout à l'heure de la réalité. La réalité qui nous entoure. La réalité à laquelle on a potentiellement accès. Pour moi, une des plus grandes révolutions de pensée de tous les temps a eu lieu au niveau de Newton. Je vais vous dire pourquoi. Avant Newton, pendant presque 2000 ans, notre vision du monde était celle que vous connaissez probablement mieux que moi, qui est celle d'Aristote, oui, à savoir que il y avait le domaine des humains, qui était tout ce qui était sous la Lune.
Oui.
Tout ce qui était sous la Lune faisait partie de notre monde, il y avait des lois éventuellement qu'on pouvait trouver, on pouvait comprendre ce qui se passait là, et ce qui était au-delà de la Lune, c'était le domaine des dieux. Pour le faire rapidement.
Tout à fait.
ça veut dire que on n'y a pas accès. C'est-à-dire que nous, notre monde, notre territoire, était cantonné à ce qui se passait sous la Lune. Et je ne parle pas que d'un territoire accessible, je parle même d'un territoire de pensée. Notre pensée s'arrêtait à la Lune. Au-delà, on pouvait projeter des trucs, on pouvait imaginer des choses, mais c'était le domaine des dieux. Newton, avec cette formule que tout le monde connaît de gravitation universelle, c'est le mot universel qui est important, a fait voler en éclats cette limite. Tout d'un coup, il s'est dit que cette gravitation qui marche pour nous sur Terre marchait partout dans l'espace. Il a étendu le domaine des connaissances potentielles à l'univers tout entier.
Déjà, ce qui est dingue, c'est qu'il en ait eu même l'idée.
Et rien que d'avoir cette idée, je trouve ça fabuleux. Vous imaginez la liberté de penser qu'on a soudain? C'est comme si toute votre vie, vous avez vécu dans une petite chambre et soudain, vous avez le droit de sortir, vous avez le droit de découvrir le monde. Et je trouve ça absolument fabuleux comme passage.
Il faut imaginer qu'il voit, par exemple, une pomme tomber d'un arbre et qu'il se dise soudain, mais c'est la même force qui attire la Lune vers la Terre et qui fait tomber cette pomme. Comment il a pu avoir cette idée?
Eh ben, il a créé des... L'intuition en science, elle est compliquée à comprendre. On pourrait dire que c'est parce qu'il est un génie mathématique, on pourrait dire que parce qu'il s'est pris la pomme sur la tête, on pourrait dire que... c'est extrêmement compliqué de savoir pourquoi lui, à ce moment-là, au-delà du fait que ce soit un génie...
Mais est-ce qu'il s'est arraché?
Je suis allé voir son pommier, il est à Cambridge. J'ai rien vu de spécial.
Mais alors, est-ce qu'il s'est arraché à la pensée de son temps pour accéder à l'universel, ou est-ce qu'au contraire, il était profondément de son temps? Parce qu'une de vos thèses, c'est que même en science, en fait, on n'a pas un accès au réel direct, on a un accès au réel qui est complètement médiatisé par l'idéologie de l'époque, par l'époque, par le temps, finalement. Pas le temps universel, mais l'époque.
Absolument. Par la culture, par ce qu'on apprend enfant, par la façon dont notre cerveau s'abreuve d'histoire, c'est ça qui va baser notre compréhension du monde à une certaine époque. Aujourd'hui, la façon dont vous, moi, tout le monde appréhende le réel n'a rien à voir avec la façon dont le réel était appréhendé il y a une centaine d'années.
Vous avez un exemple concret?
Bah oui, ne serait-ce que ça, par exemple par rapport aux Grecs anciens où on avait une vision de notre univers qui était coupé en deux. Bon, ça c'est fini, on est en une. Il y a quelques décennies, on a envoyé dans l'espace un télescope qui s'appelle Hubble.
Ouais.
Qui nous a envoyé pendant des années et des années des photos absolument splendides. On a tous dans notre imaginaire commun des images de galaxies. Qu'on sache ou non ce que c'est pas très grave, mais on voit ces grandes spirales avec plein d'étoiles dans l'espace. On sait que des galaxies, il y en a un petit peu partout. Qu'on sache exactement ce à quoi ça correspond, c'est pas très grave, mais on a ces images-là. Avant Hubble, enfin disons avant il y a 100 ans, personne n'avait l'idée que nous, on puisse appartenir à une galaxie, un petit îlot d'étoiles dans l'espace, qu'il puisse exister d'autres galaxies ailleurs. Ouais. La taille de notre univers, personne n'en avait la moindre idée. Aujourd'hui, on est baigné là-dedans. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre culture générale. Vous me demandiez pour les trous noirs. Les trous noirs ne pouvaient pas être imaginés avant que Newton nous donne sa théorie de la gravitation. C'est juste après qu'il ait donné cette vision que qu'un Anglais qui s'appelle John Mitchell et un Français qui s'appelle Laplace ont utilisé les formules de Newton et se sont dit « Ah ben zut alors, vu que la lumière ne voyage pas à une vitesse infinie, elle a une vitesse qui est 1 milliard de kilomètres par heure, on peut très bien imaginer un astre qui est tellement lourd, qui a une gravitation tellement forte, que pour s'en échapper, il faudrait aller à plus d'1 milliard de kilomètres par heure. » C'est-à-dire que pour s'échapper de cet astre-là, même la lumière ne va pas assez vite. Donc la lumière ne pourrait pas en partir. Laplace les a appelés des astres occlus. C'était la première fois qu'on voyait des trous noirs dans les calculs. Personne n'y a cru. Même au XXe siècle, lorsqu'Einstein a confirmé que c'était potentiellement possible, personne n'y croyait.
Et aujourd'hui,
on les a vus. On a pris des photos.
Alors, dans votre livre, L'univers à portée de main, vous donnez des bonnes images pour qu'on comprenne un peu cette question de l'échelle. Notamment, vous utilisez l'image de la place de la Concorde recouverte de sable pour nous donner à nous représenter, si c'est possible, l'univers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Ben justement, c'est pour se représenter une de ces galaxies. La galaxie à laquelle nous appartenons, nous. Lorsqu'on regarde le ciel la nuit, on voit qu'il y a des étoiles partout. Et puis, il y a une petite bande blanche qu'on appelle la Voie lactée. Il se trouve que la Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. C'est pas juste le nom de cette bande blanche. Il se trouve que toutes les étoiles qu'on voit la nuit dans le ciel appartiennent à la Voie lactée. Alors, pour se donner une idée de à quoi ressemble cette Voie lactée, dans le livre, je prends l'exemple de, il suffit de prendre 300 cartons d'un mètre cube, en gros, d'un mètre sur un mètre sur un mètre, 300 cartons remplis de sable, le sable fin, et vous étalez ces grains de sable sur la place de la Concorde en spirale autour de l'obélisque. Ouais. Et ça nous donne notre galaxie à nous, la Voie lactée, et le Soleil n'est qu'un de ces grains de sable à l'intérieur de cette construction-là.
Et des galaxies comme ça, il y en a ?
On en connaît au moins 1000 milliards.
C'est déjà un petit peu beaucoup, mais ça se trouve, c'est plus.
Ça se trouve, c'est beaucoup plus.
So can it go?
Michel Polnareff, sous quelle étoile suis-je né ?
Sous le soleil de Platon.
Vers l'infini et au-delà !
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Christophe Galfard, docteur en physique théorique, pardon. C'est vraiment passionnant de vous écouter parler de trous noirs, de la taille de l'univers, de cet univers en expansion infinie dans un monde clos. D'ailleurs, comment c'est possible que l'univers soit en expansion infinie dans des limites finies ?
Alors, on ne sait pas si l'univers est en expansion infinie, on ne sait pas s'il est dans un univers clos.
Donc, dis n'importe quoi.
Pas du tout, parce que il y a cette idée que l'univers en expansion pose une question bizarre qui est, il y aurait donc un bord et sur quoi grignote-t-il?
Ouais.
Et ça est compliqué à se l'imaginer.
On n'arrive même pas à se représenter ce qu'il y aurait derrière cette limite.
Non. Et d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin. C'est là qu'on rentre dans des choses mathématiques un peu rigolotes. Mais juste par rapport à l'expansion elle-même, on parlait de galaxies il y a deux secondes, ces îlots d'étoiles auxquels nous appartenons à l'un d'entre eux qu'on appelle la Voie lactée. Donc il y en a plein. Eh ben, il y a des énormes distances entre ces galaxies, des distances de vide cosmique. Et il se trouve que quand on parle d'expansion de l'univers, on parle d'étirement de ces distances.
Oui.
On ne parle pas d'un bord qui grignoterait sur un ailleurs. C'est des distances à l'intérieur de l'univers lui-même qui s'étirent.
Est-ce qu'on peut penser, c'est ce que j'ai cru comprendre dans votre livre « L'univers à portée de main », qu'il y a eu une explosion originelle, on n'arrive pas d'ailleurs à savoir pourquoi, que depuis cette explosion, la chose s'étend ou pas ?
Oui, mais elle s'étend à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que l'explosion, si on veut l'appeler comme ça, correspond à notre point de vue. Vous savez, c'est l'image que je donne parfois, c'est celle d'un bateau au milieu de l'océan. Quand vous êtes au milieu de l'océan, vous allez voir un horizon qui est rond autour de vous, vous allez avoir le sentiment que vous êtes au centre de l'océan.
Ouais.
Dans l'univers, c'est pareil. La Terre, elle a un horizon autour d'elle, et cet horizon, c'est notre univers visible. C'est cet horizon-là qui a grandi avec le Big Bang. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres marins qui ont d'autres univers, qui vont avoir des explosions autour d'eux aussi.
C'est passionnant, ça crée un émerveillement qu'on a quand on lit votre livre « L'univers à portée de main ». Alors si vous êtes adulte, je vous recommande celui-là de Christophe Galfard, « L'univers à portée de main ». Si vous avez des enfants entre 8 et 10 ans, je vous recommande « Le prince des nuages » de Christophe Galfard, qui est un roman hallucinant pour ados, pour comprendre l'histoire de notre planète. Et puis Christophe Galfard, vous êtes à l'origine d'un étonnant événement, un parcours cosmique et gastronomique à Cognac. Racontez-nous un petit peu ça.
Eh ben, j'ai été approché par Rémi Martin pour faire un parcours dans les vignes pour essayer de comprendre leur origine cosmique, leur origine géologique, leur origine biologique.
Ouais.
Et c'est un parcours qui est un petit peu hors du temps, qui dure 2 ans et demi, qui va être inauguré là, le premier a lieu le 26 juillet.
Et c'est qui, Rémi Martin ?
C'est une maison de Cognac.
Alors, c'est quand et où, si on veut y aller ?
C'est à Juillac-le-Coq, à partir donc du 26 juillet. Il faut s'inscrire parce que c'est un peu événementiel à chaque fois.
Ça doit être sympa. Parcours cosmique. Et donc, on mange pendant que vous nous racontez l'histoire du monde.
C'est ça. On goûte un petit peu la... J'ai travaillé avec toute la maison Rémi Martin, du coup, avec Baptiste Loiseau, maître de chais, avec
Romuald Feger. Vous avez un sourire quand vous ne pouvez pas parler de ça. On sent que ça s'est bien passé.
Oui, c'était super. Il y a des mets qui ont été gastronomiques, qui ont été fabriqués pour comprendre l'origine des arômes qu'on va trouver dans les fruits, pour comprendre d'où viennent les nutriments qui sont dans les sols, le rapport entre le soleil, les plantes, tout ça. Ça donne une vision un petit peu différente de l'air qui nous entoure, de ce monde auquel on appartient, que je trouve assez chouette.
Alors, on est un peu loin du trou noir, mais en fait, peut-être pas tant que ça. Pendant qu'on écoutait Paul Naref, vous me disiez, oui, je voudrais quand même revenir sur le trou noir, il y a un truc important que je voudrais dire.
Il y a plusieurs choses sur les trous noirs. Vous me disiez tout à l'heure que... Vous vous demandiez ce qui changeait par rapport aux Grecs, même par rapport à il y a 200-300 ans. Les trous noirs, on les a reconnus récemment comme étant vraiment des clés pour comprendre l'origine de notre univers, des clés pour aller une étape supplémentaire dans notre compréhension de la réalité.
Mmh.
Et ce qui a changé ces derniers temps, c'est que, par exemple, on sait que dans ces milliards et des milliards et milliards de galaxies qui nous entourent, il y a à chaque fois des centaines de millions de trous noirs qui sont disséminés un petit peu partout. Que ce sont des objets qui existent réellement, astronomiquement, qui sont là un petit peu partout et qui parsèment aujourd'hui à la fois notre paysage cosmique et le paysage intellectuel des chercheurs en physique théorique qui sont là. Il y avait un problème, c'est ça que je voulais vous dire,
oui.
Il y avait un problème avec les trous noirs, il y en a toujours un, qui est fondamental, qui a été découvert par Stephen Hawking dans les années 70, qui est que les trous noirs, avalent ce qui leur tombe dedans, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ressort un jour? Tant qu'on avait que la gravitation, ça ressortait pas, c'était dedans. Mais Hawking a montré qu'avec la physique quantique, la physique du tout petit, des choses pouvaient ressortir des trous noirs, mais qu'elles n'avaient plus rien à voir avec ce qui était tombé dedans. Qu'en gros, ça effaçait la mémoire de notre univers. Comme un reset géant, localement. Alors ça, pour les scientifiques, c'était une cata. Parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on peut pas utiliser la science pour retracer l'histoire de notre univers, vu qu'il y a des bouts qui sont effacés.
C'est dingue, ouais. Qui se volatilisent, qui sont engloutis, quoi.
Et ça s'est appelé le paradoxe de l'information de Hawking. Et il se trouve qu'en juin 2020, pendant le confinement, il y a un papier qui a été écrit par Juan Maldacena, un grand chercheur argentin, qui pointe dans la direction d'une solution avec des univers multiples, etc.
Les multivers, c'est ça?
Voilà, qui nous montre que peut-être cette information perdue et cachée peut revenir dans notre univers d'une certaine manière.
On a de l'espoir alors.
Oui.
Est-ce que ce trou noir a un rapport avec ce qu'on appelle la matière noire ?
Alors, pas vraiment. Les deux, en gros, en science, quand vous y a marqué noir ou sombre quelque part, ça veut dire qu'on comprend rien. Et du coup, c'est très facile de le mettre dans l'ombre comme ça. C'est amusant, hein, comme titre. Mais non, la matière noire est aussi quelque chose de réel. Je vous dis rapidement son origine. En tout cas, la façon dont on l'a découvert. Vous voyez, comme imaginez que la Terre qui tourne autour du Soleil, d'accord. En fait, elle peut pas tourner à n'importe quelle vitesse. Parce que le Soleil, il nous attire avec sa gravitation d'une certaine manière. Si on va beaucoup trop vite, eh ben on peut faire comme une bille dans un saladier. Si on la fait tourner trop vite sur le bord, elle s'envole, elle s'en va. Donc si la Terre tournait trop vite, elle partirait. Si elle tournait pas assez vite, elle tomberait autour du Soleil. Donc en gros, en regardant les vitesses des objets qui tournent les uns autour des autres, on peut savoir leur masse. Mais voilà, dans les années 1920, il y a Fred Zwicky, qui est un scientifique qui a découvert que les étoiles tournaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite dans notre galaxie pour ne pas être éjectées. Et qu'en fait, pour aller à la vitesse à laquelle elles vont, il faudrait qu'il y ait 5 fois plus de matière que celle qu'on voit. 5 fois. Pas juste un petit peu qui manque. C'est à chaque bouteille de lait, il y a 5 autres bouteilles de lait qui manquent dans votre frigo.
Pour qu'elle puisse aller si vite, c'est ça?
Oui, sinon elle devrait être éjectée, ou à moins de remettre en cause Einstein, à moins de remettre en cause Newton, soit on remet tout
en
cause.
En fait, si on comprend la démarche scientifique, c'est que pour que ce qu'on a déjà élaboré comme hypothèse reste valable, on en élabore d'autres.
Alors, soit on a des personnes qui disent que Einstein avait tort, Newton avait tort, on va changer d'équation et retrouver les bonnes choses qu'on voit dans la nature. Soit on se dit, Einstein a raison ou Newton a raison, et il manque quelque chose. C'est les deux possibilités. Et en se disant que il manque quelque chose, la matière noire est née. Et aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines de manières différentes de voir que cette matière existe. Et tout le monde est convaincu qu'elle existe, mais on a aucune idée de quoi elle est faite.
C'est dingue. Alors quand on vous écoute, on se dit, mais si ça se trouve, en fait on a tout faux depuis le début, puisque en fait vous montrez que pour que ça puisse tenir ce qui a déjà été élaboré comme vérité, on est obligé parfois d'inventer une hypothèse assez dingue, qu'il y aurait une matière noire qui serait 5 fois plus nombreuse et d'une autre nature. Mais par rapport à ce vertige, est-ce que finalement on n'aurait pas tout faux depuis le début? Il y a eu récemment une découverte incroyable, la démonstration de quelque chose de vrai dans les hypothèses d'Einstein, et cela nous rassure sur le fait que peut-être on n'est pas complètement en train de se tromper.
C'est une découverte historique. Pour la première fois, des chercheurs ont détecté des ondes gravitationnelles, une déformation de l'espace-temps qui se produit au passage d'un objet de grande masse. Cette découverte confirme la prédiction faite il y a un siècle par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale.
We have detected gravitational waves. We did it.
Pour les physiciens de l'observatoire LIGO, le moment est tout simplement extraordinaire. Ces ondes gravitationnelles ont été produites par la collision entre deux trous noirs qui ont fusionné il y a environ 1 milliard 300 millions d'années. Elles ont été détectées par le LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles, qui est l'appareil de mesure le plus précis jamais construit.
Alors Christophe Galfard, expliquez-nous un petit peu quand même. J'ai l'impression qu'on est sorti du vertige, mais expliquez-nous un peu.
Pour Newton, l'univers n'était pas trop compliqué. Dans un sens où je pense qu'il avait la vision qu'on a nous aussi, de manière un peu intuitive, de l'espace et du temps, qui sont qu'en gros, l'espace est une énorme boîte, peut-être avec des bords ou pas, un truc probablement gigantesque, peut-être infini. Et le temps, c'est une sorte d'horloge que tout le monde peut avoir n'importe où. On peut la consulter de n'importe où qu'on soit dans cet espace.
Ça, c'était avant.
Ça, c'était avant, mais c'est encore aujourd'hui la façon dont on considère intuitivement que sont espace et temps. Et on considère aujourd'hui encore, d'un point de vue une fois de plus intuitif, que les objets dans cet espace et dans ce temps bougent tranquilles, indépendamment de là où ils sont, indépendamment de l'espace et du temps. Einstein nous a montré que c'était pas comme ça. Einstein nous a montré que l'espace réagit à la présence d'énergie, à la présence d'objets, à la présence de ce que vous voulez qui est de l'énergie. Et il a réuni espace et temps en une sorte de tissu, de volume, si vous voulez, qui remplit l'univers tout entier, à l'intérieur duquel vous allez avoir les planètes, les étoiles, etc., et qui vont déformer cet espace et ce temps, ce tissu qui est là.
Cet espace-temps, en fait.
Cet espace-temps. Et du coup, si vous imaginez deux objets qui tournent autour extrêmement vite, qui sont extrêmement puissants, lourds, massifs, ce que vous voulez, ça peut faire des vagues. dans cet espace-temps. Ces vagues-là étaient prédites, c'est un calcul ultra simple, hein, ça prend même pas une page, que aujourd'hui n'importe quel étudiant en sciences peut faire en maîtrise, même avant. Et on a commencé à détecter ces ondes réellement.
Mais vous voulez dire 2015. Ce calcul, c'est Einstein qui l'avait fait.
Oui.
Il avait donc fait des équations pour dire voilà, il y a des ondes gravitationnelles qui sont comme on pourrait dire les effets comme des petites vaguelettes qui sont des effets de la déformation de l'espace-temps.
Voilà, c'est comme si vous mettez deux balles de pétanque dans de l'eau et que vous les tournez l'une autour de l'autre ultra vite, même si vous êtes sous l'eau, ça va créer des petites vagues sous l'eau qui vont se propager. Et certaines d'entre elles se propagent dans l'espace pendant des millions et des millions, voire des milliards d'années, jusqu'à quand elles vous traversent, vous, une onde gravitationnelle, vous changez de taille, en fait.
Ah bon?
Oui, vous en rendez compte?
Non.
Personne s'en rend compte parce que c'est minuscule.
C'est peut-être pour ça que je me sens bizarre parfois.
C'est minuscule, et puis tout ce qui est autour de vous le fait en même temps, et ça passe à la vitesse de la lumière. Donc c'est extrêmement rapide, on s'en rend pas vraiment...
Mais ça, donc, ça a été... enregistré, détecté.
Par un télescope qui s'appelle LIGO, dont un des co-créateurs s'appelle Kip Thorne, qui a été un de mes conseillers de thèse aussi.
Ah oui.
Et lui, il a eu le prix Nobel pour ça en 2019, je me souviens plus.
Ça a dû vous faire quelque chose de fou quand vous avez découvert ça. Comment vous l'avez
Honnêtement, tout le monde était persuadé que ça existait. Il y avait déjà indirectement des preuves de son existence, d'existence. Donc d'un point de vue théorique, c'était pas une surprise. C'est d'un point de vue expérimental que c'était dingue, qu'on a eu un nouvel objet, un nouvel outil expérimental pour regarder l'univers. Mais d'un point de vue théorique, on savait que ça existait.
Mais est-ce que du coup, la force de gravité, enfin la gravitation, pardon, qu'on imaginait être une force qui est là et qui nous attire comme ça vers le bas, est-ce que ça aussi, il faut le remettre en question en pensant qu'en vérité, il s'agit là aussi d'une déformation de l'espace-temps?
Ben oui, mais vous voyez, quand on parle depuis tout à l'heure de la vision qu'on a par rapport à une certaine époque, aujourd'hui, on sait... Aujourd'hui, la façon dont on comprend la gravitation, c'est plus cette force de Newton qu'on apprend à l'école, c'est exactement ce que vous venez de dire, une déformation de l'espace.
Expliquez-nous
et du temps.
Un peu quand même.
Imaginez ce tissu qui est dans l'espace et vous mettez un objet à l'intérieur de ce tissu.
Une planète, par exemple.
Par exemple, ou une étoile, ou ce que vous voulez. Et ben, cette planète ou cette étoile va déformer le tissu et va créer des pentes.
Et ça va, ouais, d'accord.
Le long desquelles vous allez glisser. Là, la raison pour laquelle vous êtes sur votre chaise à ne pas vous envoler dans ce studio, c'est parce que vous glissez le long de la pente
et
dans l'espace-temps créé par la Terre.
Et ce n'est donc pas parce qu'il y a une force de gravitation qui m'attire vers le bas.
Exactement. Cela étant, pour tout point de vue pratique, la façon dont on peut regarder ça, en utilisant Newton, marche absolument parfaitement. Trying to get on top, but it's never easy. Mastered my own luck, but it wasn't easy. Trying to feel alright around all these people. I try, but I'm just numb this time. Deep is cut that I can't feel. Find my grip on the steering wheel. I know I'm pissing stuck. You can sit down if you don't mind me standing up. I know I was too good to pass. Meeting you caused a change reaction. I take the smallest crumb, but I'll never get back.
C'était Haïm Lost Track.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Christophe Galfard, docteur en physique théorique, cette fois j'ai réussi, et nous essayons de comprendre cet émerveillement du savant devant cette résistance du réel, cette énigme du réel, que parfois on arrive un peu à élucider, mais qui quand même résiste sérieusement. Vous nous disiez, Christophe Galfard, que même le savant est pris dans son époque, dans la représentation de son temps, et que quelque part on n'a pas accès à un réel direct, c'est toujours un accès médiatisé par une époque, mais quand même, est-ce qu'on est sûr qu'il y a un progrès du coup dans cette histoire de la science, qu'il y a un progrès, est-ce qu'il est de nature linéaire ?
Bah, en mettant de côté toute forme de jugement par rapport à un progrès positif ou négatif, moi j'appellerais progrès l'idée d'avoir accès à des réalités qui étaient cachées jusque-là. Ouais. De pouvoir voir plus que ce qu'on voyait, que ce soit bien ou mal, mais laissons ça de côté. L'idée, par exemple, qu'on découvre des nouvelles planètes.
Oui.
Ça a été fait grâce à Newton. Newton nous a donné donc sa théorie de la gravitation universelle. Si jamais elle était vraie, il y avait des planètes comme Jupiter et Saturne qui tournaient pas autour du Soleil comme il fallait. Il y a des choses qui marchaient pas. Du coup, une fois de plus, comme on le disait tout à l'heure, soit la théorie est fausse, soit il y a quelque chose dans la nature qui nous perturbe et qui peut être éventuellement expliqué. Ben, c'est ce qu'ont fait des gens. Il y a Le Verrier, par exemple, ouais, qui a un astronome français, qui s'est dit, si Newton a raison, et moi je pense qu'il a raison, il devrait y avoir une autre planète à un certain endroit. Il y a un Anglais qui a fait la même chose. Et les observatoires n'ont pas voulu regarder et vérifier. Le Verrier s'est battu. Il a trouvé un copain à Berlin qui a fini par pointer son télescope vers l'endroit que Le Verrier lui donnait, plus ou moins, et il a trouvé une nouvelle planète, exactement là où Le Verrier l'a voulu. Du coup, Le Verrier a été crédité de cette découverte. L'Anglais était pas content du tout. Je pense que 200 ans après, c'est pour ça que le Brexit a eu lieu. C'est à cause de ce combat-là.
Mais quand même, dans ce cas, la science, on parle de vérité, mais peut-être le mot de réel est plus important. Il y a bien des moments où quand même il y a une rencontre avec le réel.
C'est amusant parce que on a l'impression qu'il y a une réalité qui est extérieure à nous et qui est là et qui attend d'être déchiffrée. Mais la façon dont on peut appréhender cette réalité, elle est multiple. Et on n'est pas nécessairement les maîtres d'une objectivité. On va toujours appréhender le réel à travers un certain prisme. Et ce qui est amusant encore plus, c'est que en essayant de plus en plus de comprendre cette réalité qui nous entoure, on est arrivé par exemple dans le monde du tout petit. Dans ce monde qu'on appelle le monde quantique. Le monde quantique a des lois qui n'ont strictement rien à voir avec notre quotidien.
Et non plus avec celle de l'infiniment grand.
Et non plus de l'infiniment grand non plus.
C'est bien le problème.
De Newton, du très grand ou quoi que ce soit. Lorsqu'on plonge lorsqu'on zoome et qu'on se met de plus en plus vers le petit, on perd absolument tous nos repères. C'est une réalité parce qu'elle correspond à des prédictions expérimentales qui sont vérifiées et qui fonctionnent. Mais lorsqu'on se plonge là-dedans, on ne comprend plus rien. Il y a une phrase.
Je crois que c'est même au point qu'on n'arrive même pas à savoir si ce réel tout petit est de l'ordre de la particule ou de l'onde.
Alors ça, on sait que c'est un peu des deux. Bah, disons que si on essaie d'aller comme ça dans le tout petit, on est obligé de complètement mettre tout d'oublier un petit peu tout ce qu'on savait avant.
D'abandonner tout savoir.
On abandonne. Mais il y a une sorte d'humilité dans cette.
C'est la
dans
poésie
cet
pure
acte.
Aussi. C'est la poésie pure.
Et de la création.
D'abandonner
pure.
Tout comme ça.
Et il y a une sorte d'humilité dans cet acte qui est qu'on n'est plus en train de se référer à ce que nos sens et notre perception peut nous faire croire par rapport au monde. On est obligé de se projeter dans un monde qui est lointain, presque de science-fiction, si vous voulez, et de se dire, quelles peuvent être les lois qui sont là-dedans? Elles sont tellement dingues. Il y a un scientifique célèbre qui s'appelle Niels Bohr, qui a dit à un autre scientifique célèbre qui avait une idée de ce que pouvaient être les atomes, ta théorie est complètement tarée, mais la question est de savoir, est-ce qu'elle est suffisamment tarée pour être correcte? Et là, on rentre dans l'idée que se baser sur notre perception, c'est faux. Parce que notre perception ne nous donne accès qu'à une toute petite fenêtre de ce qui se passe autour de nous. Un exemple comme ça pris parmi un million. Là, maintenant, pendant que je vous parle, par centimètre carré de votre peau et par seconde, il y a environ 50 milliards de neutrinos qui vous traversent. Ce sont des particules émises par le soleil qu'on ne ressent pas. Il y a autour de nous une réalité invisible. Il y a autour de nous des choses auxquelles on n'a pas accès et que la science nous permet petit à petit de découvrir. Dans ce sens-là, il y a progrès. Dans ce sens-là, l'obscurité de la non-connaissance, la peur qu'on pourrait avoir de l'inconnu s'éloigne.
Un peu.
Beaucoup même, par rapport à Newton, par rapport aux Grecs anciens, la partie du monde qu'on connaît et qu'on sait appréhender est devenue gigantesque. On peut avoir peur parfois du cosmos en se disant « ah c'est trop grand », etc. Mais on arrive à le faire dans nos petites têtes à nous. On arrive à le contenir dans nos petites têtes à nous. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas si grand que ça au final.
Si on revient sur cet infiniment petit, sur la mécanique quantique, ça veut dire que quand vous dites qu'il faut abandonner sa perception, déjà c'était le cas un peu dans la science classique, hein, quand Bachelard nous dit qu'il faut déconstruire son intuition première, que la science est de construire un objet en se méfiant de son intuition, il y avait déjà cette idée, simplement là, elle est radicalisée. Et jusqu'au point de comprendre que quelque chose peut être en même temps là et pas là.
Alors là, on a justement, dès l'instant où on plonge dans le monde quantique et qu'on essaie de regarder les lois qui sont à l'intérieur, ça a été une des montagnes qu'ont gravi les scientifiques au début du XXe siècle, que de découvrir les lois de ce minuscule. Et parmi les choses dont il faut se défaire pour pouvoir l'appréhender de manière peut-être correcte, c'est toutes nos notions de position, d'être là, pas là, de taille, d'énergie, etc. Toutes ces choses qui nous basent dans notre quotidien, on les oublie. Il faut les transformer par des probabilités, par être ici et là, par changer même parfois certaines chronologies, des causalités qui ne fonctionnent pas forcément dans le même ordre, des trajectoires qui sont multiples, par exemple, entre ici, le studio et chez vous, vous allez probablement vous dire que vous n'allez prendre qu'un seul chemin, en voiture ou en métro ou en vélo. Dans le monde quantique, entre deux endroits, une particule prend tous les chemins possibles en même temps.
C'est vrai que c'est dur à imaginer, ça nous conduit à poser la question de la vérité finalement. Dans la philosophie, on a coutume de définir la vérité comme une adéquation entre un énoncé et une réalité, entre une théorie et un fait. Alors là, ça marche pas trop.
Bah si. C'est juste qu'il faut pas partir sur les bases qu'on avait avant. Une fois de plus, c'est cette humilité, ou plutôt cette prétention peut-être humaine que de se dire que, ah, avec ce qu'on voit autour de nous, on peut comprendre l'univers tout entier. Alors, à la base, c'est vrai. Mais il faut qu'on arrive dans nos têtes à sortir de notre expérience quotidienne. De se dire que nos corps sont limités et de faire confiance à nos esprits, à la puissance de notre esprit, à la puissance de notre imaginaire. Et là, on peut se projeter dans des endroits qui ne sont pas ceux de notre perception.
Donc vous persistez quand même à penser dans ce cas que la vérité est bien de l'ordre de quelque chose qui est dans le réel et qu'on va mettre à jour, et non pas de l'ordre d'une production finalement.
Ben, je dirais plutôt pas exactement ça, parce que justement, il y a, je pense, mille manières d'accéder au réel. Et que chaque façon d'y accéder a sa propre vérité. La vérité de Newton était une vérité à son époque qui a été remplacée d'une certaine manière, mais pas complètement, ou englobée dans celle d'Einstein, qui a été complété par celle de la physique quantique, qui nous permet à chaque fois d'aller voir plus loin. Et un exemple tout bête sur le... Je vous donne un exemple tout bête, là, que je suis en train d'écrire, et je vous donne en exclusivité un morceau de ce que je suis en train d'écrire.
Merci.
Il y a quelque chose par rapport au temps. Juste un exemple tout bête. Notre perception du temps. Nous, on a l'impression, en tout cas avec notre culture, que le futur, on le pointe devant. Mais il y a certaines... culture, pour qui pointer vers l'avant, c'est pointer vers le passé. Il y a une certaine logique là-dedans. Autour de nous, ce qui reste autour de nous est une conséquence du passé. Ce qu'on voit, c'est le passé. Ce quoi on a accès est une conséquence du passé. Le futur est invisible. Il est derrière nous, pour eux. Il y a une certaine logique. Lorsqu'on pointe nos télescopes vers l'espace, ils récoltent de la lumière provenant du passé.
D'une étoile qui est déjà morte, mais le temps que la lumière nous parvienne, donc on voit le passé devant nos yeux.
On ne voit pas le futur. Donc ça, c'est culturellement parlant, ça nous permet juste de faire un pas de côté, de se dire qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Et toutes sont justes. La physique quantique, d'une certaine manière, donne l'illusion de réunir toutes ces différentes visions, mais elle a sa réalité propre, elle aussi, et qu'on essaye de comprendre petit à petit.
Et vous pensez que, vous avez écrit notamment le prince des nuages, hein, que si on veut par exemple comprendre ce qu'est un nuage, il vaut mieux en parler à un scientifique ou à un poète comme Baudelaire?
Je pense que les deux... Baudelaire clairement joue sur l'émotion. Et je pense que, étonnamment, les scientifiques aussi jouent sur l'émotion, sauf que le langage qu'ils emploient nécessite un autre apprentissage pour être compris. Mais pour preuve que ça joue aussi sur l'émotion, on n'a jamais vu un enfant se mettre à pleurer en comprenant quelque chose.
C'est pas sûr.
En comprenant pourquoi le ciel est bleu, etc., le moment de la compréhension est toujours un moment de plaisir. Ben, quand bien même il se mettrait à pleurer, c'est de l'émotion aussi. Mais il y a aussi cette forme de joie de la compréhension et qui est inhérente à notre espèce.
Et vous, Christophe Galfard, qu'est-ce qui, au fond, vous met le plus en joie? C'est les moments où vous comprenez ou c'est les moments où vous comprenez tout ce que vous ne comprenez pas?
Ah ben c'est les moments où je comprends, évidemment.
Quand même.
Oui, parce que les moments où on comprend tout ce qu'on ne comprend pas, ça c'est le quotidien. Alors que le moment où on comprend quelque chose, c'est beaucoup plus rare.
Christophe Galfard, on est au début de l'été, il va y avoir ces nuits étoilées, ces ciels étoilés. Est-ce que vous avez un petit conseil comme ça à donner aux gens pour savoir ouvrir les yeux vraiment?
Ben, par exemple, dans ce parcours-là que j'ai écrit avec Baptiste Loiseau à Juillac-le-Coq, à Cognac, là, pour Rémi Martin, l'idée, c'était de faire en sorte qu'on ressente à certains moments tout ce qui se passe autour de nous.
Ouais,
qu'on se concentre sur cet air qui est autour de notre peau, sur ces rayons du soleil qui viennent nous réchauffer, sur ces couleurs qui sont liées à la biologie, à la géologie, et que ce sentiment d'appartenance à une nature, à une réalité qu'on n'a pas besoin toujours de transformer ni en poésie, ni en équation, mais juste de la vivre.
Merci beaucoup Christophe Galfard. S'abandonner, s'ouvrir, être un peu présent au monde, pas simplement penser, pas simplement regarder, mais aussi, vous l'avez très bien dit, ressentir. Je vais essayer de résumer ce matin la philosophie de la vie qui a été la vôtre. Alors on a bien compris, hein, une philosophie de l'émerveillement, une philosophie du partage, une philosophie de la curiosité par rapport au réel. J'aurais envie de dire aussi une philosophie du sourire. Il y a quelque chose de malicieux en vous. Évidemment, vous aimez comprendre, vous aimez aussi tout ce qui résiste à cette compréhension. On a aussi vu dans ce petit t-shirt un savant qui finalement adore dans ce réel tout ce qui lui résiste et essaie quand même de comprendre et de nous rassurer sur le fait que oui, on progresse, que oui, il y a, comme le disait Einstein, quelque chose de très surprenant, mais de très réjouissant, c'est que nous puissions comprendre quelque chose. Merci beaucoup Christophe Galfard. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, à la technique Alexandre Chenet, à la programmation musicale Valentine Chaudebois. Elle a été préparée par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h exactement dans la caverne de France Inter sous le soleil de Platon.